septième élégie. Plus de clameurs, qu'elle cesse d'être clameur. Voici devenue elle-même la nature de ton cri. Tu crierais, certes, pur comme l'oiseau, quand la saison l'enlève, elle qui monte, oubliant pour un peu qu'il est une bête chétive et non seulement un cœur solitaire qu'elle lance dans l'air serein, dans la profondeur du ciel. Comme lui, sans doute tu prierais, non moins que lui, pour que l'ami, invisible encore, te trouve la silencieuse, en qui doucement une réponse s'éveille et à ton écoute devient plus intense, amoureuse enflammée à la mesure de ton désir. Oh, et le printemps comprendrait, nulle place alors qui ne porterait la voix de l'annonciation. D'abord les petits tintements suspendus, qu'un jour pur salue de très loin et entoure d'un silence toujours plus radieux. Puis la montée de l'appel vers le temple rêvé de l'avenir. Puis les trilles, fontaines, dont le jaillissement incessant devance déjà la chute dans le jeu des promesses. Et devant soi, l'été, non pas les matins seulement, tous les matins d'été, ni seulement leur façon de se changer en jour et de rayonner devant l'aube, non pas seulement les jours qui entourent les fleurs de tendresse, et là-haut, les arbres magnifiques, durs et puissants, pas seulement la prière de ces forces déployées, pas seulement les chemins, pas seulement les prairies au soir, pas seulement l'orage épuisé, cette source d'air limpide, pas seulement le sommeil prochain et ce soupçon, le soir, mais les nuits, mais les hautes nuits d'été, mais les étoiles de la terre. Oh, un jour être mort et les savoir sans fin, toutes les étoiles, car comment, comment, comment les oublier? Vois, alors j'appellerai l'amante, mais elle ne viendrait pas toute seule. Il viendrait des tombes moribondes, des jeunes filles, et elle serait là, car comment? Une fois lancée, comment retenir l'appel? Les ensevelis cherchent encore et toujours la terre. Vous, enfants, la moindre chose saisie ici-bas vaudrait pour beaucoup d'autres. Ne croyez pas que le destin soit plus que la densité de l'enfance. Que de fois vous avez dépassé l'aimé, soufflant. Soufflant après une course merveilleuse pour rien, dans l'air libre. Être ici est une grâce. Vous le saviez, jeune fille, vous aussi, vous qui paraissiez indigente, abandonnée, vous, dans les ruelles les plus sordides des villes, rongées de maladies ou offertes à la déchéance. Car il y eut une heure pour chacune, peut-être pas une heure entière, un instant entre deux instants, à peine mesurable à l'aide des mesures du temps, où sa vie fut sienne, entièrement. Les veines pleines de vie. Seulement, nous oublions si vite ce qu'un voisin sournois ne nous confirme pas ou ne nous envie pas. Nous voulons qu'il soit bien visible, quand le plus clair bonheur ne se laisse deviner qu'une fois accompli en nous. Nulle part, bien-aimé, le monde ne sera, si ce n'est en nous-mêmes. Notre vie est métamorphose, et toujours plus infime devient le dehors, où jadis était une maison solide, surgit une image pensive qui l'éclipse, répondant si pleinement à la pensée qu'on la croirait encore debout dans le cerveau. Il construit de vastes silos de force, l'esprit de notre temps, informe comme la fièvre insensée qu'il récolte partout. Le temple, il ne le sait plus. La source enfuie de notre cœur, nous la gardons plus secrètement. Oui, là où subsiste une chose qui fut autrefois vénérée, honorée à genoux, elle demeure intacte dans le secret de l'invisible. Beaucoup ne la voient plus, mais ils n'ont pas le privilège de la bâtir maintenant en eux-mêmes, avec piliers et statues, et plus grande encore. Tout obscur retournement du monde fait des déshérités qui ne possèdent plus ce qui fut et pas encore ce qui va venir. Car même ce qui est proche est lointain pour les hommes. Que cela ne nous égare pas, mais que devienne plus fort en nous le souci de maintenir ce qui encore nous apparaît fondé, cela qui fut une fois dressé parmi les hommes. Dressé dans le destin, au sein du destructeur, dressé dans l'on ne sait vers où, comme une chose d'être, et incliné vers soi les étoiles du haut des cieux plus calmes. Ange, je te le montre encore, là, afin qu'en ton regard, cela soit pour toujours sauvé, maintenant enfin debout. Colonne, pilier, le sphinx, et cette prodigieuse montée grise qui domine la ville en allée ou inconnue, la cathédrale. N'était-ce pas miracle? Admire, ô ange, car cela c'est nous, nous, ô toi qui nous dépasse, dis-le, que nous avons pu de telles choses. Mon souffle ne suffit pas à les célébrer. Ainsi, en dépit de tout, nous n'aurons pas laissé se perdre les espaces, ces dons du ciel, ces espaces qui sont notre vie. Que leur immensité doit être terrifiante pour que des millénaires de notre sentiment ne l'aient pas épuisé. Mais une tour était haute. Est-ce vrai? Ô ange, elle l'était, haute, même à côté de toi. Chartres était haute, et la musique allait encore plus loin et plus haut que nous. Ou même une seule amante, oh, seule à sa fenêtre la nuit. Ne t'arrivait-elle pas à la hauteur des genoux? Ne crois pas que j'implore. Ange, et même si je t'implorais, tu ne viendrais pas, car mon appel toujours est aussi un refus. Contre un flot si puissant, tu ne peux t'avancer. Un bras tendu, semblable est mon appel, et sa main haute, ouverte pour saisir, demeure devant toi, ouverte comme une défense et un défi. Insaisissable, immense. Huitième élégie. Tous les yeux de tout ce qui vit voient dans l'ouvert. Seuls nos yeux sont comme retournés, posés autour de tout comme des pièges, scellant toute ouverture. Ce qui se tient dehors ne nous est donné qu'à travers le regard des bêtes, car déjà le tout jeune enfant, nous le retournons et le forçons à regarder derrière, dans le reflet, non dans l'ouvert, qui demeure si profond, dans le visage des bêtes, libre de mort. Nous, nous ne voyons qu'elle. La bête libre a toujours son déclin derrière elle, et devant elle, Dieu, et lorsqu'elle va, elle va, dans l'éternité, comme vont les fontaines. Nous, nous n'avons jamais, pas un seul jour, le pur espace devant nous, où les fleurs sans fin s'épanouissent. C'est toujours le monde et jamais le nulle part sans néant, le pur, vierge de tout regard, que l'on respire et sait infiniment et sans vouloir le posséder. Un enfant soudain s'y retrouve perdu en silence et en est bouleversé. Ou quelqu'un meurt et il est ça. Car proche de la mort, on ne voit plus la mort. On fixe un là-bas, devant soi, avec, peut-être, ce grand regard des bêtes. Les amants, quand l'autre ne serait pas, qui dérobe la vue, en sont tout proches, et s'étonnent. Comme par mégarde s'ouvre à eux, derrière l'autre. Mais lui, on ne le franchit pas, et il retourne au monde. Toujours tourné vers le visible, nous ne voyons sur lui que le reflet du libre, obscurci par nous-mêmes. Ou bien il faut qu'une bête, un être silencieux, lève les yeux, calmement passe à travers nous. Le destin, c'est ceci, être face et rien d'autre, et toujours face. S'il y avait une conscience semblable à la nôtre dans la bête insoucieuse qui, du chemin d'en face, vient à notre rencontre, c'est elle qui nous retournerait, nous guiderait. Mais son être lui est infini, non lié et sans regard sur soi, pur comme sa façon de voir. Et là où nous voyons l'avenir, elle voit tout et elle-même dans tout et à jamais sauvée. Et cependant il y a, dans cette bête chaude et attentive, le poids et le souci d'une grande mélancolie, car elle aussi porte toujours en elle ce qui souvent nous envahit, la mémoire, comme si une fois déjà, ce vers quoi nous tendons avait été plus proche, plus fidèle, et sa présence infiniment tendre. Ici, tout est absence. Là-bas, tout était souffle. Après ce lieu natal, l'autre est pour elle une terre incertaine et violente. Ô bonheur de la petite bête qui toujours demeure dans le sein qui l'a porté. Ô bonheur du moucheron qui danse encore à l'intérieur, même au temps des amours. Le sein est tout. Et voit le vol fragile de l'oiseau. Lui qui, par sa naissance, sait presque les deux mondes, il ressemble à l'âme d'un étrusque, enfui d'un mort et qu'un espace accueille, bien que la figure du gisant le recouvre. Et quel émoi pour celui qui doit, au sortir de l'œuf, prendre son envol. Comme effaré devant lui-même, il sillonne l'air, comme lorsqu'une fêlure fend une tasse. Ainsi passe le sillage de la chauve-souris dans la porcelaine du soir. Et nous, spectateurs, toujours et partout, tournés vers tout et jamais au-delà, nous submergés, nous mettons de l'ordre. Tout se brise, nous recommençons et nous nous brisons. Qui donc nous a retournés ainsi pour que nous ayons l'air, quoi que nous fassions, de quelqu'un qui part, comme sur l'ultime colline, celui qui, encore une fois, embrasse des yeux toute sa vallée, se retourne, s'arrête, s'attarde. Ainsi nous vivons et nous disons sans cesse adieu. Neuvième élégie. Pourquoi, s'il est loisible aussi bien d'habiter le temps de sa vie comme un laurier, un peu plus sombre que tous les autres vers, avec de petites vagues sur le bord de chaque feuille, tel un sourire du vent, pourquoi faut-il donc être homme et, fuyant le destin, ne brûler que pour le destin? Oh, non pas à cause du bonheur, cette faveur fugitive d'une défaite prochaine, non par curiosité ou pour former le cœur, qui dans le laurier serait aussi, mais parce qu'être ici, c'est beaucoup, et que toute chose d'ici, semble-t-il, a besoin de nous, cet éphémère qui, étrangement, nous appelle, nous. Les plus éphémères, une fois chaque chose, une fois seulement, une fois, et pas plus, et nous aussi une fois, jamais une autre, mais cette seule fois l'avoir été, même si ce n'est qu'une fois, avoir été terrestre, semble-t-il, est irrévocable. Ainsi nous nous lançons et voulons l'accomplir, voulons le tenir dans nos simples mains, dans des yeux qui exultent et un cœur qui se tait, voulons le devenir. À qui le donner? Le mieux serait de tout garder pour toujours. Hélas, dans l'autre règne, qu'emportons-nous? Pas le regard, appris si lentement ici, ni rien de ce qui advient ici, pas une seule chose. Alors les douleurs, alors par-dessus tout la douleur d'être, alors le long chemin d'amour, alors seulement l'indicible. Mais plus tard, sous les étoiles, quelle importance, elles sont tellement plus indicibles. Ainsi le voyageur ne rapporte pas même du bord des précipices une seule poignée de terre dans la vallée, de terre indicible à tous, mais un mot choisi. Pure, une gentiane jaune et bleue. Nous sommes peut-être ici pour dire maison, pont, fontaine, porte, cruche, verger, fenêtre, au plus colonne, tour, mais dire, comprends-le, le dire de telle façon que jamais les choses en elles-mêmes eussent rêvé être telles. N'est-ce pas une ruse secrète de cette terre qui toujours se tait si elle presse les amants afin que dans leur cœur, une à une, toute chose exulte? Seuil, qu'est-ce pour deux amants si ce même seuil ancien ils ne font que l'user un peu, eux aussi, après tous ceux qui sont passés et avant ceux qui vont venir, légèrement. Ici est le temps du dire, ici son lieu natal. Parle et dévoile. Plus que jamais les choses nous quittent, celles qui s'éprouvent, car ce qui les remplace est un fer sans image. Un fer sous des croûtes qui se brisent toutes seules, aussitôt que s'éveille l'énergie de l'action s'élançant vers d'autres limites. Entre les marteaux demeure notre cœur, comme la langue entre les dents, mais qui, cependant, continue de chanter. Dis à l'ange l'éloge de ce monde, non l'indicible. Lui, tu ne peux l'impressionner par la puissance de ton sentiment. Dans l'univers où il éprouve le plus intense, tu es un apprenti. Montre-lui alors le plus simple, ce qui, formé avec lenteur de génération en génération, vit comme notre monde propre, à portée de la main et dans notre regard. Nomme-lui les choses, tu verras sa stupeur, semblable à celle que tu connus devant le cordier de Rome ou le potier du Nil. Montre-lui comme une chose peut-être heureuse et innocente et nôtre, comme la plainte douloureuse elle-même devient une forme pure. Aide comme une chose, où s'achève en chose, et là-bas, merveilleuse, s'échappe du violon. Et ces choses, qui vivent de leur déclin, comprennent que tu les célèbres. Périssables, elles nous croient capables de les sauver, nous les plus périssables. Veulent que nous accomplissions, dans le secret invisible de notre cœur, leur métamorphose, ô infini, en nous, quoique nous-mêmes devenions. Terre, n'est-ce pas ce que tu veux? Invisible, renaître en nous, n'est-ce pas ton rêve, être une fois invisible? Terre, invisible. Quelle est, sinon cette métamorphose, ta suprême volonté? Terre que j'aime, je le veux. Ô, crois qu'il n'est plus besoin de tes printemps pour me gagner. Un, ah, un seul est déjà trop pour le sang. Sans nom je t'appartiens, depuis longtemps. Toujours tu fus dans la mesure, et ta plus sainte découverte est la mort reconnue. Vois, je vis. De quoi? Ni l'enfance, ni l'avenir ne deviendront moins vastes. Une innombrable vie me jaillit dans le cœur. 10e élégie. Qu'un jour prochain, au terme des visions furieuses, je chante toute gloire et toute joie parmi le salut des anges. Que des marteaux du cœur aux battements limpides, aucun ne frappe une corde molle, tremblante ou prête à se briser. Que mon visage en pleurs me fasse plus rayonnant. Que l'invisible larme fleurisse. Et comme alors, ô nuit, vous me deviendrez cher, nuit de détresse, que ne vous ai-je reçus à genoux, sœurs inconsolées, que ne me suis-je défait dans vos cheveux défaits, nous, puits de douleur, nous les suivons là-bas, dans la triste durée, comme si elles étaient sans fin. Elles sont pourtant notre feuillage en plein hiver, notre pervenche obscure, une des saisons de notre année secrète, non seulement la saison, le lieu, le séjour, la base, le sol, la demeure. Vraiment, hélas, comme elles sont étrangères les ruelles de la ville souffrance, où dans le faux silence, née du fracas, puissante, issue du moule du vide, l'averse éclate, l'enfer doré, le monument du vacarme. Oh, comme un ange, sans laisser de traces, l'écraserait leur marché aux consolations, bordé par leur église, l'église de quatre sous, nette et close et piteuse comme un bureau de poste le dimanche. Mais dehors, c'est toujours le grouillement des abords de foire, manège de la liberté, plongeurs et magiciens du délire. Et le tir au bonheur et ses figures charmantes où la cible frétille et fait son bruit de tôle quand un champ se fait mouche. Au fil de la fortune, il poursuit son ivresse, car les baraques jouent du tambour, piaillent, racolent tous les curieux. Mais pour les gens sérieux, il reste encore à voir, surtout, comment l'argent se reproduit anatomiquement et non seulement pour le plaisir, l'organe de l'argent, tout, toute l'affaire, le processus, très instructif et très fertile. Oh, mais juste après, là, derrière la dernière planche où est collée l'affiche, mort, nul, cette bière amère que les buveurs semblent adorer, toujours agrémentée de subtiles distractions, juste derrière cette planche, juste là, est la réalité. Des enfants jouent, les amoureux s'étreignent, à l'écart, grave, dans l'herbe maigre, et les chiens sont en liberté. Plus loin encore s'en va l'adolescent. Peut-être est-ce une jeune plaintive qu'il aime. Il la suit à travers les champs. Elle dit « Loin. Nous habitons là-bas, en dehors. Où ?» Et le jeune homme la suit, ému par son maintien, les épaules, le cou. Peut-être est-elle de noble lignée, mais il la laisse, revient, se retourne, fait signe. À quoi bon? C'est une plaintive. Seuls les jeunes morts, dans cet état premier d'indifférence hors du temps, celui du détachement, la suivent avec amour. Les jeunes filles, elle les garde et s'en fait des amis, leur montre avec douceur ce qu'elle a sur elle, les perles de la douleur et les voiles transparents de l'acceptation. Avec les adolescents, elles marchent en silence. Mais là où elles habitent, dans la vallée, la plus vieille des plaintives veut répondre elle-même au jeune homme s'il interroge. « Nous étions, dit-elle, une noble descendance, autrefois, nous les plaintives. Les pères exploitaient la mine, là-bas, dans la grande montagne. Chez les hommes, tu as trouvé parfois un éclat taillé à même la douleur où, jaillit de l'ancien volcan, l'écume durcie de la colère. Oui, cela venait de là-bas. Jadis, nous étions riches. » Et elle le guide doucement dans le grand paysage des plaintives, lui montre les colonnes du temple ou les ruines des châteaux, d'où les princes des plaintives, jadis, gouvernaient sagement le pays. Lui montre les grands arbres de larmes et les prairies en fleurs de la mélancolie. Les vivants n'en connaissent que les premières feuilles douces. Lui montre les bêtes du deuil qui paissent et parfois s'effarouche un oiseau et s'enfuit d'un seul trait devant le regard et dans l'espace grave l'image de son cri solitaire. Le soir, elle le mène aux tombes des ancêtres, de la descendance des plaintives, les sibylles, les prophètes. Mais à la nuit tombée, ils vont d'un pas plus doux, et bientôt, tel un lever de lune, le monument funèbre qui veille sur toute chose, frère de celui du Nil, le sphinx souverain, le visage de la chambre close en silence, et ils admirent la tête couronnée qui pour toujours, silencieuse, a posé le visage de l'homme sur la balance des étoiles. Mais son regard ne le voit pas, ivre encore de la mort éclose, mais elle, sa vue, longeant le bord du Pchent, effarouche la chouette, l'oiseau frôlant d'un long vol pâle, la joue à la courbe plus mûre, dessine avec douceur dans la nouvelle écoute du mort sur une double feuille grande ouverte, l'ineffable contour. Et plus haut, les étoiles. Nouvelles, les étoiles du pays des larmes. Lentement les nomme la plaintive. Ici, vois le cavalier, le bâton. Et cette constellation plus dense s'appelle la couronne de fruits. Puis plus loin vers le pôle, le berceau, le chemin, le livre ardent, la poupée, la fenêtre. Mais dans le ciel du sud, pur comme au cœur d'une main bénie, le grand M étincelant, qui signifie les mers. Mais le mort doit poursuivre, et en silence la plus vieille des plaintives le mène au seuil de la vallée, où resplendit au clair de lune la source de la joie. Avec vénération, elle la nomme et dit, chez les hommes, elle est un fleuve d'extase. Ils sont au pied de la montagne, et là, elle l'entoure de ses bras et pleure. Seul il s'en va vers les cimes de la douleur pure, et pas une fois son pas ne sonne dans le silence du destin. Mais s'il devait en nous, les morts sans fin, éveiller une image, vois, il nous montrerait peut-être les chatons dans le noisetier vide, les suspendus, ou évoquerait la pluie qui tombe sur l'obscur royaume de la terre au printemps. Et nous, qui pensons au bonheur qui monte, nous aurions l'émotion qui nous bouleverse presque quand tombe une chose heureuse.